inspirant. Rien de plus hein, que Jésus. Merci beaucoup. Oui, quand on se sent seul et abandonné, hein? C'est terrible de se sentir seul et abandonné. Hein? Je ne sais pas si vous avez eu une belle expérience au secondaire. Qui a eu une belle expérience au secondaire? Pas trop pire. Ouais, bon, l'ami, OK, ça a été dur, hein, je pense. Oui, ça, c'est terrible au secondaire parce que tu veux absolument faire partie d'un groupe. Tu ne veux pas te sentir rejeté. Hein? Il y a différents groupes dans les secondaires. Il y a les groupes des musiciens. Là. Ils sont toujours avec leur guitare. Tes voix, là, sont avec, il y en a qui ont des bâtons pour se pratiquer au drum. Il y en a d'autres, c'est les sportifs. D'autres, c'est les intellos. Donc, au secondaire, c'est ça, hein, c'est des groupes. On veut faire partie du groupe. On ne veut pas se sentir rejeté, se sentir abandonné. Non, on veut faire partie de la gang. Et c'est très difficile. Et dans la vie, c'est comme ça. On n'aime pas se laisser se sentir abandonné. D'ailleurs, écoutez les expressions qu'on va entendre lorsque des personnes vont passer à travers des crises dans leur vie. Où ils se sentent rejetés ou abandonnés. On pense aux couples, j'ai vu tellement de couples à travers les années, se sont séparés, et c'est atroce, épouvantable, le mal, les souffrances qui sont là. Et vous entendez les expressions qu'on va entendre, et ils vont dire, « Il m'a crevé le cœur. » Ils vont dire, « Je me sens comme si j'ai eu un accident, comme si on m'avait frappé. » Alors, il y a quelques mois, il y a un neuroscientifique, un chercheur, qui a décidé, qui entendait toutes ces expressions-là, puis il a dit, écoutez, ça ne peut pas être une coïncidence. Il écoutait ces expressions-là qui exprimaient la douleur qu'on pouvait ressentir par l'abandon, le sentiment de rejet. Puis il dit, écoute, ça ne peut pas être une coïncidence. Ce sentiment-là a l'air à vraiment faire mal. Donc, il a décidé, c'est un neuroscientifique, alors il a décidé de faire des tests, alors il a pris quand même quelques personnes. Et il a fait une étude. Il a placé des gens sous un scanner à cerveau. Et puis, il leur a demandé de jouer un jeu virtuel sur ordinateur, par Internet, Cyberball. Essentiellement, c'est toi, le sujet qui était à l'étude, et il y a deux joueurs avec toi, virtuels, dans l'ordinateur. Et tout ce que tu fais, c'est que tu passes le ballon. Alors, puis là, on étudie les sentiments, les émotions que tu peux avoir lorsque tu joues au ballon. Un jeu simple, niaiseux, ça ne peut pas être plus simple que ça, ça fait juste te passer le ballon. Alors, trois personnes qui se passent le ballon. Alors, au début, tout le monde se passe le ballon, mais c'est arrangé pour que la personne qui est à l'étude, à un moment donné, est là, elle passe les ballons, puis les deux joueurs virtuels arrêtent de lui passer le ballon. Et là, ils jouent juste entre les deux. Alors, le gars, il se lance le ballon, puis le gars qui est là à l'étude va avoir le ballon, mais là, il n'y a pas de ballon. Alors, les deux personnes se lancent le ballon mutuellement. Là, le gars, la personne qui est à l'étude, qui est sous le scanner, est là, puis il se sent pas mal rejeté. Puis, c'est fait par exprès, c'est intentionnel, parce qu'on voulait mesurer comment tu te sentais lorsque tu te sens rejeté. On voulait analyser le degré et l'intensité de douleur que tu pouvais éprouver lorsque tu te sentais abandonné. Eh bien, croyez-le ou non, c'est juste un jeu virtuel d'ordinateur, Internet. Ça ne changera absolument rien dans ta vie, aucune incidence, aucun impact dans ta vie, même un jeu stupide. Mais les gens se sentaient tout croche. Ils se sentaient à l'envers parce que les deux joueurs virtuels le rejetaient. Et là, le spécialiste a commencé à faire des analyses, il a commencé à regarder les scans. Puis, il a découvert quelque chose de vraiment intéressant. Premièrement, lorsque la personne enlevait son scan, lorsqu'elle sortait, elle disait comment elle se sentait tout croche à l'envers. Il dit, je comprends pas, vraiment, je me sens pas bien. Et même après enlever le scanner de sur la tête, de cerveau, la personne n'arrêtait pas de dire à quel point elle se sentait vraiment mal. Et là, le neuroscientifique, ce qu'il a fait, il a pris le scan, puis il a comparé la douleur que l'on pouvait ressentir côte à côte avec une personne qui avait une grosse douleur physique. Quelqu'un qui vient de se casser un membre, casser une jambe, avoir un accident. Et il mesurait l'intensité, puis il a découvert quelque chose de vraiment intéressant. Le scan révélait que la personne qui vit un sentiment d'abandon, souffre autant, autant que qu'une personne qui vient d'avoir un gros accident. En d'autres mots, il n'y a aucune différence sur l'intensité de la douleur exprimée entre la douleur émotionnelle qu'on peut éprouver par le rejet ou l'abandon qu'une douleur physique. De fait, lorsque tu prends les deux scans, l'analyse des deux scans côte à côte, et tu ne sais pas quel est lequel, tu ne verras aucune différence, tu ne sauras pas lequel scan représente la douleur physique comparativement à la douleur émotionnelle que l'on peut éprouver par le sentiment d'abandon. D'ailleurs, c'est la conclusion de sa recherche. Il a même écrit un livre qui s'appelle « Social », c'est le Dr. Matthew Lieberman. Il a écrit un livre « Social » qui donne la conclusion de ses études. Et l'étude conclut en disant justement qu'il n'y a pas de différence. La conclusion de ses recherches, il dit « Lorsque les relations entre êtres humains risquent d'être brisées et qu'on se sent rejeté ou abandonné, le cerveau répond de la même manière qu'aux souffrances que l'on peut éprouver par une douleur physique. » Maintenant, les gens, les personnes qui ont passé à travers le divorce, qui ont perdu quelqu'un de très cher, comprennent très bien ce dont on parle, ou un ado, une adolescente qui se sent rejetée par les autres à l'école, souffre autant que s'il s'était cassé un membre, imaginez. Parce que le sentiment d'abandon fait terriblement mal. Une femme raconte comment elle a été trahie par son mari. Pendant plusieurs années, il jouait à la comédie, c'était un bon mari à la maison, prenait soin des enfants, tout était beau. Il allait même à l'église. Pourtant, il avait trois maîtresses dans trois villes différentes. Et sa femme ne le savait pas. Alors, quelle ne fut pas la surprise de cette femme lorsqu'elle a découvert ce côté sombre de son mari. Elle s'est sentie trahie, s'est sentie rejetée. Et c'est épouvantable. Alors, quoi faire quand on éprouve ces douleurs atroces, atroces de l'abandon, du rejet? Les psaumes ont été écrits pour de telles occasions. Les psaumes dans les Écritures saintes ont été écrits pour adresser ces douleurs et ces souffrances que l'on peut éprouver à travers certaines situations de la vie. Le livre des psaumes a été écrit pour cette femme victime de cette trahison par son mari. Il a été écrit pour des gens qui passent par l'abandon et qui éprouvent ce sentiment de trahison et d'échec, qui se sentent si seuls. Mais les psaumes parlent aussi d'espoir, de puissance et de réconfort à ceux qui traversent ces moments pénibles. Le psaume sur lequel nous allons nous arrêter ce matin retrouve David dans la période la plus difficile de sa vie. En fait, la description que David va donner à travers ce psaume est tellement intense que les érudits, les experts de la Bible ne réussissent pas à cibler exactement l'expérience que dans la vie de David qui décrirait tous les détails que nous avons dans le psaume 22. On n'arrive pas à cibler le moment exact de cette expérience qu'il est en train de décrire. C'est tout à fait atroce. Il souffre terriblement. Certains auteurs parlent même d'un psaume mystérieux. Ce psaume nous livre la douleur d'un homme qui se sent abandonné. Il se sent seul et au cœur de son expérience, de son épreuve, la douleur va s'intensifier, va devenir encore plus intense alors qu'il prie, nuit et jour, il va prier puis il n'y a aucune réponse de Dieu. Et il ne comprend pas le silence de Dieu. Et c'est un des grands thèmes de ce psaume, le silence de Dieu, comment comprendre. Il se sent donc abandonné même de Dieu. Alors, le psaume que nous allons voir ce matin a deux parties, vraiment de 1 à 22 et 23 à 32. Deux parties. David va commencer en exprimant sa douleur. Il ouvre son cœur. Il réussit à mettre en mots ce qu'on éprouve lorsqu'on passe par ces moments d'angoisse, de solitude et d'abandon. Mais il montre aussi comment s'en sortir. Son trajet est un grand réconfort pour nous, car la seconde partie du psaume est vraiment différente. Ça nous montre un homme totalement changé, un homme nouveau. Au début du psaume, David dit « Je me sens seul, je me sens comme un rien, son estime de soi est à zéro. » Et tout d'un coup, il change complètement de ton, d'attitude. À la fin du psaume, il n'arrête pas de louer Dieu. Au début, il dit à Dieu « Pourquoi tu ne m'écoutes pas? » À la fin, il dit « Hey, je vais te louer, puis il invite les autres à se joindre à sa louange, puis il dit « Tout le monde devrait louer le Seigneur. » Donc, ce gars-là a vraiment changé, là. Son ton change du tout au tout. Alors, David va commencer en se plaignant à Dieu, ce qui est une bonne chose. Il va à Dieu, il prie, alors il ouvre son cœur très honnêtement, il est très intègre avec Dieu. Et il ouvre son cœur. Il exprime à Dieu comment il se sent. Et c'est là qu'il faut aller dans la prière. On veut regarder la prière de David. La prière commence assez brusquement, directement avec une plainte. Donc moi, j'aimerais vous inviter à venir me rejoindre avec le psaume, à trouver le psaume 22. On va lire juste les trois premiers versets au début. Je vais vous citer d'autres versets. C'est un assez long psaume, 32 versets, donc on n'aura pas le temps de tout lire, mais on va s'arrêter sur quelques versets, essayer de résumer ça. Donc, le psaume 22, on va lire versets 1 à 3. « Alors, je suis au chef de cœur sur la mélodie de biche de l'aurore. » C'est un peu comme si David écrivait à Alex. Il dit à Alex, ou à Jean-François, quand il dirige le matin, ou à Boniface, ou à Joël, tous ceux qui dirigent en avant la louange, là, au chef de cœur, sur la mélodie de biche de l'aurore, psaume de David. Regardez bien comment le psaume commence au verset 2. Il dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit, et je ne trouve pas de repos. » Tellement intense, David prie le jour, prie le soir, la nuit, mais pas capable de dormir, sa souffrance est si intense, et Dieu ne répond pas. Il ne comprend pas le silence de Dieu. Il donne quatre raisons pourquoi il ne comprend pas. Tout d'abord, il dit, je ne comprends pas, tu es saint. Tu ne devrais pas laisser ces choses-là m'arriver dans ma vie. Ces gens qui m'en veulent, certainement étaient... Il semble être pourchassé d'ennemis. Il compare même ses ennemis, sont tellement durs et violents. Il les compare à des animaux sauvages. Il dit, je ne comprends pas, tu es saint. Et non seulement ça, tu es souverain en Israël. C'est toi, tu es souverain, tu contrôles tout. Alors, première raison, il dit, je ne comprends pas que tu ne réponds pas. Il dit, Dieu, tu es saint et souverain, verset 4. Il dit, pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu es au contrôle. La deuxième raison pourquoi je ne comprends pas que tu ne répondes pas, Dieu, tu as été fidèle à travers des années avec notre peuple. Verset 5, c'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Tu répondais à leurs prières. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et tu n'étais pas déçu. As-tu déjà cette impression-là que le Seigneur répond, mais il répond aux autres, pas à toi? Eh bien, David dit, moi je ne comprends pas. Il dit, tu bénis les autres, tu l'as démontré à travers l'histoire, tu as été fidèle. Mais même dans ma vie, troisième raison qu'il donne, je ne comprends pas, c'est que tu as été fidèle même dans ma vie. Il va dire au verset 10, « Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » En d'autres mots, il compare Dieu à une sage femme qui prend soin d'un enfant, qui délivre un enfant, qui est en train d'accoucher, une femme qui est en train d'accoucher, prend soin, le met sur le ventre de sa maman. Et il dit, dès ma naissance, tu étais là, puis tu prenais soin de moi, tu as été fidèle dans ma propre vie, mais je ne comprends pas que maintenant que je te prie aujourd'hui, je ne comprends pas. Et quatrième raison, Dieu, regarde comment je me sens. Je me sens tout croche, je me sens vraiment pas bien. C'est-tu normal, un enfant de Dieu, sentir tout croche comme ça? On devrait être joyeux, heureux et tout ça. Et moi, vraiment, ça va pas bien, là. Je me sens pas bien. D'ailleurs, regardez bien son estime de soi, parce qu'il est rendu, là. Ça va pas bien, il dit... Il dit, je me sens comme un ver. Un ver. T'sais, écoute, de toutes les images auxquelles il aurait pu penser, David, il dit, un ver. T'sais, tu t'en vas, là, tu t'en vas voir quelqu'un, tu t'en vas, tu sais, comme cœur à cœur, il te demande de trouver peut-être une image. C'est vraiment une bonne façon de communiquer, essayer de comprendre ta douleur et tout ça. Quelle image représente ta douleur? Donne-moi une image qui représenterait ce que tu vis en ce moment. David a répondu, un ver. C'est que t'es pas très haut, là. T'es bas, là. Ton estime de soi est à zéro. Tu peux pas aller plus bas que ça, là. Tu peux aller plus bas qu'un verre? Qu'est-ce qu'il y a en bas d'un verre, là? Tu peux pas aller plus bas que ça. Il dit, moi, je me sens comme un verre. Il dit, verset 7, je suis un verre et non un homme. La honte, l'humanité, celui que le peuple méprise. On me méprise, on rit de moi, on n'arrête pas de rire de moi. Je me sens comme un verre. Alors, David prie, demande au Seigneur de le sauver, de le sortir de ces souffrances-là. Mais pire encore, il dit, Dieu, tu m'as abandonné. Tu m'abandonnes. Je ne comprends pas. Tu ne réponds pas à mes prières. Tu es silencieux. Alors, il fait une prière au verset 12. Il dit, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Pas le temps de me laisser tomber. Quand personne ne vient à mon secours. Il dit, regarde, je suis entouré d'ennemis. Il les compare à des animaux sauvages. Verset 13, il dit, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et qui rugit. Et là, tout d'un coup, il décrit comment il s'est abandonné, il se sent seul, et tout ça, fait sa prière, tout ça. Et tout d'un coup, mon ami, tout d'un coup, il y a un miracle qui arrive. En plein milieu. Inattendu, surprise, il ne prépare même pas l'arrivée de ce changement-là. Il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas ce qui s'est passé. On connaît les résultats, par exemple. Un petit détail. Un moment donné, il va dire, tu m'as répondu. Verset 22. La deuxième partie du verset 22, ça dépend des versions. L'hébreu le dit. La seconde 21 le dit très bien aussi. Ils l'ont même mis à part. On le voit très bien, en tout cas dans ma version. Ça dit, tu m'as répondu. Verset 22, deuxième partie, là, verset 22b. Tu m'as répondu. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est allé au temple, il était encouragé, il a rencontré des frères, des sœurs, tout ça, ils l'ont encouragé, tout ça, puis là, son cœur a complètement changé. Ou est-ce que Dieu a littéralement répondu et les ennemis ont disparu? On ne sait pas c'est quoi, on laisse ça comme ça, il y a un mystère. On n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Mais là, mon ami, il change du tout, complètement changé. Mon ami, là, il n'arrête pas de louer le Seigneur. Ah, il dit, tu m'as répondu. À partir de là, c'est un autre homme. Ah, il dit, là, je vais commencer à te louer. Seigneur, je vais te louer, là. Je vais te louer. Là, il n'arrête pas de louer le Seigneur. Il dit même, il fait une promesse. Il dit, non seulement je vais te louer, tu vas voir, il dit au verset 23, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Je vais annoncer ton nom. Le nom représente le caractère. Donc, il dit, « Je fais la promesse de parler de ta bonté, parler de toi, Seigneur. » Je fais cette promesse-là. Puis non seulement ça, il invite les autres maintenant à louer le Seigneur, à se joindre à lui. Verset 24, il dit, « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. » Alors, pourquoi cette louange? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il donne trois raisons. Dieu, c'est parce que tu es bon, je vais te louer, parler de ta bonté, parce que tu es bon et tu es miséricordieux. Verset 25, il dit, « En effet, il, parlant de Dieu, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, il ne cache pas son visage. » Étrange comme commentaire. Tantôt, il disait, tu me réponds pas, je prie. Tu réponds pas, je prie le jour, je prie la nuit. Tu me caches, tu me réponds pas, tu m'abandonnes. Pourquoi tu m'abandonnes? Et là, il dit, dans le fond, il m'a jamais abandonné. Vois-tu ce qui se passe ici? Il est en train de dire, tout ce temps-là, il entendait mes prières. Alors, Dieu, premièrement, je veux te louer parce que tu es bon, tu es miséricordieux, verset 25, deuxième partie de verset 25. Verset 25 dit, tu entends nos prières, tu ne caches pas ton visage, mais il écoute, il entend celui qui crie à lui. Il nous entend. Vois-tu, quand tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas lorsque tu es seul et tu te sens abandonné, tu sens comme si Dieu ne t'entendait pas, comme David, mais en fait, tout ce temps-là, Dieu entendait, l'écoutait, puis entendait le cri de sa souffrance. Rappelle-toi de ça, que Dieu est toujours là et ne t'abandonnera jamais. David loue Dieu car il est bon, miséricordieux, il entend nos prières et il offrira le salut jusqu'aux extrémités de la terre. David va faire une prophétie ici. Verset 28, « Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. » Maintenant, David est en train de faire une prophétie parce qu'il est en train de parler d'un événement qui va se passer plus tard. Des années plus tard. Et ce qui est merveilleux, c'est que à ce moment-là, cette délivrance qui va venir un jour, il n'y aura pas de différence que tu sois riche ou pauvre. C'est ce que David va dire au verset 30, il dit, « Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. » Donc, il n'y aura plus de différence entre riche et pauvre, il n'y aura pas de différence. cette délivrance-là dont il parle, cette prophétie à venir, cette délivrance future, un événement miraculeux qui va se produire dans l'avenir, il n'y aura pas de différence entre les riches et les pauvres. Et cette génération-là qui connaîtra le salut, cette délivrance, cette bénédiction de Dieu, va la partager aux autres. Ce sera tellement magnifique, cette délivrance future, prophétique. Ça va tellement être majestueux que cette génération-là qui va être bénie par ce salut, cette délivrance, va en parler à tout le monde autour. Ils vont proclamer ce message. Et verset 31 dit, « Leur descendance le servira le Seigneur. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. » C'est ça le message. Elle annoncera son œuvre accomplie au peuple à naître. En hébreu, très proche de « tout est accompli ». D'ailleurs, la Bible de Jérusalem le rend comme ceci. Elle racontera au peuple à naître sa justice. Il l'a faite. C'est accompli. Sa justice, la justice de Dieu va s'accomplir un jour par un miracle, par un salut miraculeux qui va avoir un impact sur le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Même les non-juifs. Tout est accompli. Justice est rendue. Qu'est-ce qui est accompli? Quelle justice? Eh bien, évidemment, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Voyez-vous, ce psaume est messianique. Il prophétise le sacrifice de Jésus qui viendrait un jour. D'ailleurs, Pierre, des centaines d'années plus tard, dira dans Acte 2, lorsqu'il livre un sermon, explique que David était un prophète et parlait de Jésus. La description que nous avons dans le psaume 22, la description que nous avons dans les 22 premiers versets parle de la... C'est une exécution. Ça parle du sacrifice de Jésus-Christ. Et la portion que nous avons... Plusieurs pensent que la portion que nous avons, la deuxième partie du psaume, donc la première partie parlerait du sacrifice de Christ. Et à partir du verset 23 jusqu'à la fin, parlerait de la résurrection de Jésus. Alors Jésus est allé à la croix afin de prendre sur lui notre péché. De prendre sur lui toute la haine et la violence qui est vraiment bien décrit dans ce chapitre ici. L'orgueil des hommes et tout ça, notre péché. Et juste avant de mourir, alors que Jésus est sur la croix, il va dire dans Jean 19, 30, ce verset, il dit, Jésus dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Voyez-vous, le sacrifice de Jésus était parfait, complet, suffisant pour payer pour nos péchés. Il a pris sur lui les conséquences, le jugement qu'on méritait, afin d'apaiser la colère de Dieu. C'est ce qu'on appelle la propitiation dans les Écritures. Rendre Dieu propice, en paix. Il est satisfait du jugement qui s'est réalisé à la croix sur Jésus-Christ. Et ce jugement qui s'est réalisé sur Christ nous procure la justice. En Jésus, nous sommes donc justifiés de tout péché. Ce psaume messianique, il parle du sacrifice de Jésus et du salut qu'il procure. Parce que c'est... Comme je vous disais au début tantôt, on a la misère, les experts ont la misère à essayer de cibler un événement qui se serait déroulé dans la vie de David. C'est tellement fort le côté messianique et mystérieux que même les rabbins avaient un problème avec ce passage-là, ce chapitre-là. Certainement, ça apporte pour les Juifs un réconfort, pour ceux qui souffrent, qui vivent d'abandon et tout ça. Mais à quelque part, les rabbins ont voulu donner une interprétation pour essayer de répondre à ce ton tellement prophétique du passage. Donc, voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, David recevait une prophétie pour annoncer qu'un jour, il y aurait une délivrance miraculeuse qui s'est réalisée dans le temps d'Esther. Vous savez, il était supposé d'avoir un génocide de tous les Juifs à l'époque d'Esther. Et Mardochée est venu, est intercédé. Puis, grâce à lui, il a eu une délivrance et un salut de toute la nation. Ils ont évité, par miracle, le génocide de plusieurs Juifs, de toute la nation juive. Et les rabbins, donc, ont commencé, les Juifs ont commencé à célébrer une fête, le Pourim, pour l'occasion. Et encore aujourd'hui, les Juifs, chaque année, vont célébrer cette fête de Pourim. Et lors de la fête, ils vont lire le psaume 22, disant, c'était à ça que faisait allusion David. Mais en fait, ce psaume fait allusion au Seigneur Jésus-Christ, qui allait venir et s'offrir en sacrifice pour délivrer les pécheurs. La Société biblique, d'ailleurs, estime qu'il y a environ 24 allusions à ce psaume seulement dans le Nouveau Testament, dont 3 sont citées directement et 14 font une allusion et ils sont tous liés au sacrifice de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est ce qui inspire certains auteurs à dire justement qu'on parle de la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus ici dans ce psaume. Parce que ça commence en décrivant les souffrances de Christ. Il décrit les souffrances physiques de Jésus. Jésus a été évidemment maltraité, fouetté. Il a enduré le mépris, le rejet de la nation juive. Il a été humilié. Et le monde entier, représenté par les Romains, l'ont rejeté. Verset 7, dis-moi, et ça parle de Jésus ici. Mais moi, je suis un ver. On a traité Jésus comme un ver insignifiant et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. On a méprisé Jésus. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Vous vous rappelez tous ceux qui se retrouvent autour de la croix. Ils se moquaient de Jésus. Il dit, il ricane, il hoche la tête. Et verset 12 dit, personne ne vient à mon secours. Jésus a été laissé là. Lui qui était parfait, avait fait aucune faute, aucun péché. Il est là, laissé seul à la croix, en train de mourir. On l'a crucifié. Jésus a été laissé seul. Tous l'ont abandonné, même les disciples. Et Judas l'a même trahi, alors qu'il l'a aimé pendant des années. Verset 17, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Alors qu'un temps, lorsque ce verset a été donné, la crucifixion n'existait même pas. C'est venu des centaines d'années plus tard. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 19, « Ils se partagent mes vêtements, tirent au sort mon habit. » Vous vous souvenez de ces soldats qui partageaient ses vêtements? Mais il décrit aussi sa souffrance émotionnelle et spirituelle qu'il vit sur la croix, qui est pire encore. Et verset 2 dit ceci, « Mon Dieu! » Et on se souvient de ces paroles que Jésus a dites sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a lancé ce cri du haut de la croix. Dans Matthieu 27, nous disons, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani, » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? » Et peu de temps après, Jésus mourut. Pour un moment, Jésus fut séparé de son Père. On ne peut pas vraiment réaliser l'ampleur de la douleur, de l'abandon que Jésus a connu à ce moment-là, alors que de toute éternité, Jésus était en profonde intimité, avait une relation intime et parfaite avec son Père. Mais voilà que Dieu lui tourne la face, se détourne de lui, le rejette, alors que tous les péchés sont imputés sur Christ, sur Jésus-Christ, les péchés du monde entier sont transférés sur ses épaules. Et Dieu le punit. Dieu se sépare d'avec son Fils. Il lui tourne le dos. Quelle douleur pour Christ. Imaginez ce qu'on disait tantôt avec le Dr. Lieberman qui disait que la souffrance du sentiment d'abandon est aussi pire qu'une souffrance physique. Mais pour Jésus, c'est encore pire. On ne peut même pas imaginer l'intensité de la douleur qu'il a pu connaître à être séparé de son Père. Et là, Dieu l'abandonne. Il lui tourne la face, tourne le dos, refuse de lui répondre. Pourquoi? Parce que Dieu jugeait tes péchés, mes péchés. Dieu jugeait les péchés du monde entier sur la croix en la personne de Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus s'est interposé pour faire la paix entre Dieu et le pécheur. 2 Corinthiens 5, 21, il le dit très bien. Ça dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, quel sacrifice! Vous savez, la direction du premier Adam, c'était obéis, obéis, et tu vas vivre. Mais la direction que Jésus devait prendre, c'était obéis, puis Dieu va t'écraser comme de la poudre. Et c'est ce qu'il a fait, il a mené une vie parfaite, obéi à Dieu parfaitement, et Dieu l'a écrasé là sur la croix. Jésus fut écrasé comme un ver. Il dit, je me sens comme un ver. Le mot hébreu pour ver ici, c'est tolahat, c'est le petit ver du Moyen-Orient qu'on retrouve en Palestine, en Syrie. On écrasait cette petite créature-là, puis on prenait le sang de ce petit ver, puis on en faisait de la belle teinture que seuls les riches pouvaient se permettre. Ils faisaient des habits avec ça, et la royauté, les gens nobles, les riches pouvaient se revêtir et acheter ce linge. C'est de la cramoisie, c'est pourpre, une couleur brillante, brillante. D'ailleurs, le mot écarlate signifie la splendeur du verre. On lit même dans 2 Samuel que Saül a revêtu les filles d'Israël de cramoisie. Le roi a même promis à Daniel, le prophète Daniel, de le revêtir de pourpre s'il pouvait deviner l'énigme. Voyez-vous le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix? Nous procure un nouveau vêtement, un vêtement de justice. Le sang de Jésus nous donne un vêtement de justice. Jésus est devenu un ver et il fut crucifié. Il a été écrasé à la crucifixion afin de nous revêtir de gloire. C'est ça le message de la croix. Il a été abandonné par Dieu afin que tu ne sois jamais abandonné de Dieu. Jean 10, 28 le dit très bien, il dit, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Si tu es en Jésus, tu as cette assurance. Dieu est à tes côtés, il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Dieu a prouvé son amour. Alors comme nous étions des pécheurs, il est mort pour nous, Jésus est mort pour nous. Il a déjà prouvé son amour. La croix m'assure que je ne serai jamais abandonné de Dieu. Alors, lorsque tu passes par ces moments de crise et difficiles, peut-être la maladie où tu te sens abandonné, tu te sens seul et tu pries, tu ne sens pas avoir de réponse, souviens-toi que la croix t'assure que tu ne seras jamais abandonné de Dieu. Le cri de Jésus sur la croix t'assure d'avoir le meilleur compagnon pendant les souffrances et pour toujours. Ce psaume commence avec le premier verset d'une citation de Jésus. « mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? » Et le psaume termine avec une autre citation de Jésus. « Tout est accompli. » Alors, comme le dit David au verset 31, nous voulons parler du Seigneur à la génération future. Nous voulons annoncer sa justice. Annoncer au peuple, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Et c'est sur ces paroles que nous voulons prendre la Sainte-Cène ce matin, nous rappeler ce moment glorieux où Jésus s'est offert à la croix pour nous. J'inviterai les frères qui sont assignés à la distribution des éléments de venir en avant.